Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, le débat a déjà commencé. Ils sont bavards ce matin. Frédéric Dabi, bonjour.
Bonjour.
Directeur général adjoint de l'IFOP, Pierre Jouvet, bonjour. Porte-parole du Parti Socialiste, Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte. Vous avez été député Les Républicains et vous venez tout juste de publier Construire l'Europe des réalités.
C'est ça.
Qui est paru aux éditions
L'Harmattan.
L'Harmattan.
Achetez-le, c'est pas cher.
C'est pas cher, c'est un petit livre et ça explique pourquoi il faut qu'on se... Enfin, qu'est-ce que peut être
non,
une Europe...
En réalité, j'essaie d'expliquer comment le processus européen s'est développé et s'est mis dans une impasse par la boulimie de l'Europe et la nécessité aujourd'hui de refonder l'Europe avec un principe, je dirais, qui devrait la sauver, c'est-à-dire la subsidiarité.
Ouais.
Et puis les États doivent reprendre la main sur une technocratie qui joue les États les uns contre les autres.
Et puis nous attendons Éric Vérague, fondateur de Décider et Entreprendre. Perquisition chez Mediapart, qu'en pensez-vous? Panique au sommet de l'État, une manœuvre liberticide. C'est vrai que c'est assez rare d'envoyer les juges dans un organisme de presse. En particulier, il y a la protection des sources. Et ça fait suite à l'affaire Benalla et aux enregistrements qui ont été publiés par Mediapart la semaine dernière. Grève générale, les syndicats sont-ils morts? On vous pose la question carrément. Et puis suppression des niches fiscales, qu'en pensez-vous encore? Les classes moyennes qui vont trinquer. Pourquoi Gérald Darmanin lance-t-il ces pistes-là? On sait bien que quand on lance des idées comme celle-ci, c'est qu'il y a
derrière... Il
cherche de l'argent. Mais alors pourquoi les classes moyennes? On peut pas trouver l'argent ailleurs. On va en reparler dans un instant. Allez, coup de gueule, coup de cœur. On va commencer avec vous, Jacques Myard.
Mais écoutez, moi je vais pousser un coup de cœur pour la société qui a retrouvé le corps de Salah au bout de 2 jours.
Ouais.
Et un coup de gueule contre les services publics anglais qui ont été infoutus de le faire, parce que les services publics anglais, comme partout d'ailleurs en Europe, pour des raisons de purge budgétaire bruxelloise, sont à mal. Et donc ça, et je vois aujourd'hui dans les récriminations... notamment qui montent de la base, une nécessité d'avoir des services publics. Donc c'est un problème, il faut arrêter la purge budgétaire de Bruxelles et reconstituer le minimum de services publics pour la cohésion sociale et politique dans chacun des pays de l'Europe.
Ouais, je voulais juste signaler, vous parliez de services publics, qu'aujourd'hui il n'y a qu'une radio qui est en grève, c'est Radio France, c'est France Inter et France Info. Ça pose quand même...
Et un peu culture.
Et un peu culture, mais ça pose quand même la question de la grève.
Ça pose aussi un problème. Aujourd'hui, la grève est un droit constitutionnel. Vous n'allez pas la remettre en cause.
On ne va pas la remettre en cause, sauf que vous remarquez bien que dans le privé, il n'y a pas de grève. Je veux dire,
ne changeons pas une équipe qui perd.
Détrompez-vous. Je connais par exemple une compagnie aérienne qui s'appelle Lufthansa, qui est une compagnie privée qui a été notamment en grève pendant des mois. Donc, il ne faut pas
Compagnie privée allemande. En France, vous connaissez beaucoup d'entreprises privées où il y a des grèves.
Beaucoup moins, je vous l'accorde. Notamment avec le jour de carence que les socialistes avaient, aboli. Mais surtout parce que je crois qu'en réalité, les moyens des services publics, aujourd'hui, dans certains services publics, on arrive à l'étiage. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des réactions.
Mais comment donc, peut-on dire des choses pareilles? Il y a 5 millions de fonctionnaires.
Les 5 millions de fonctionnaires, on sera à l'étiage. Là où vous pensez. Parce que dans le 10 000 feuilles territoriales, il n'y a pas de grève, d'une part, et il y a énormément de fonctionnaires. C'est la structure de l'organisation de la nation qui est en cause.
Alors,
je pensais pas être d'accord avec Jacques Myard
Début de l'émission. Vous voyez, comme quoi,
c'est la droitisation du PS.
On va passer au...
La gauchisation de M. Myard.
Merci, M. Dabi.
Vous savez, je vais vous dire, il faut sortir des carcans idéologiques, qu'ils soient à droite ou à gauche, et de regarder les réalités telles qu'elles sont.
La réalité, c'est qu'il y a des grèves partout et des sureffectifs de fonctionnaires. C'est ça, la réalité.
Et d'autre côté, il y a l'attachement très fort des Français aux services publics.
Mais ça, c'est une invention parisienne. Ça n'a été trouvé par Nielsen.
Paris, c'est du n'importe quoi.
Je vois que monsieur des réalités et vit dans...
Arrêtez, c'est pas à moi, fils d'ouvrier, que vous allez expliquer ce qu'est la réalité.
Moi aussi, je suis fils d'ouvrier.
Ben voilà, donc on n'a pas de leçon à se donner.
Pas tous en même temps, on n'entend pas. On va passer au coup de cœur de Frédéric.
Moi, c'est un coup de cœur matinée de coup de gueule. C'est les 15 ans de Facebook hier et comme... disait le poète Ésope pour la langue.
Oh là.
Facebook, c'est la meilleure et la pire des choses. Le meilleur pour l'accès à la formation, la sociabilité, rester en contact avec des amis, en retrouver à la manière moderne David recherche dans les années 80. Le pire, bien sûr, c'est le cyber-harcèlement, la haine, cette société du ricanement qu'avait évoqué Finkielkraut érigée en dogme. les questions très sérieuses de non-respect de la vie privée, d'utilisation des données personnelles. Et puis, on en parlait, c'était l'argent, le nerf de la guerre, la question des impôts. Il y a eu une interview dans le JDD d'hier, avant-hier, j'ai trouvé de grande qualité de Laurent Soli, mais force est de constater que sur plusieurs sujets, il élude les questions.
Ouais. Donc, c'est un coup de cœur, un coup de gueule.
C'est un coup de cœur à titre personnel et un coup de gueule à titre citoyen.
Bon, très bien. On a Christine Bouillot en ligne avec nous, qui est notre correspondante à Toulouse. C'est un point d'actualité qu'on fait avec vous, puisqu'il y a des barrages en ce moment et vous êtes devant un barrage de gilets jaunes, c'est cela ?
Alors ce barrage, Valérie, bonjour, en tous les cas, il vient d'être levé à l'instant même par les gendarmes. Ils sont arrivés, les gendarmes de la circonscription, et tout s'est passé dans le calme, hein, les gilets jaunes. Qui étaient quand même très nombreux ce matin. Ils étaient entre 300 et 400 à bloquer ce péage intégralement. Une opération coup de théâtre un petit peu, hein, parce qu'on se demandait ce qui allait se passer. Tout s'est passé dans le calme, mais des gilets jaunes particulièrement remontés et qui ont décidé désormais de rejoindre tout simplement les cortèges, et ça va rejoindre sans doute le débat que vous aurez avec vos invités, qui ont décidé d'aller rejoindre cet après-midi les cortèges pour manifester également et aux côtés des syndicats qui eux appellent à manifester dans le centre de Toulouse. Donc, alors, on ne peut pas parler de convergence de lutte, comme certains l'annoncent, mais toujours est-il qu'il y a une volonté en tous les cas de s'afficher, sinon côte à côte, en tous les cas pas loin les uns des autres, pour marquer le coup, en tous les cas continuer à marteler toujours le même message autour du pouvoir d'achat, des hausses de salaire et aussi du RIC, hein, qui revient beaucoup dans les revendications. Donc, info importante, parce qu'à Toulouse, c'est particulièrement compliqué de circuler aujourd'hui. L'autoroute, l'accès à l'autoroute A62 est désormais réouvert par les gendarmes à l'instant ici sur l'A62 au nord de Toulouse.
Très bien, merci Christine Bouillot. Et puis tenez-nous au courant, évidemment, du développement de ces manifestations. Forte, très forte mobilisation à Toulouse. Et on va voir s'il y a, on va en parler dans un instant, convergence entre les syndicats, l'appel de la CGT et certains gilets jaunes. On continue notre tour de table avec vous, Éric Vérac. Vous,
oui, c'était la loi anti-casseur. Parce que je pense quand même qu'on ne peut pas. Alors, on va reparler tout à l'heure avec la perquisition chez Mediapart, mais on voit bien quand même que depuis les attentats de 2015, il y a une montée des restrictions sur les libertés publiques progressives et que Emmanuel Macron accélère ce mouvement. Alors, il y a eu un excellent papier dans Slate, et Dieu sait si je ne suis pas un lecteur de Slate habituel, en tout cas pas avec beaucoup d'empathie, mais qui a été très bien fait sur la volonté qu'a Emmanuel Macron exprimée lors de ses confidences la semaine dernière à la presse, d'une façon ou d'une autre, de tordre le cou à la liberté de la presse, parce qu'il préférerait gouverner. Il pense que ce serait plus facile de gouverner sans que les oppositions ne s'expriment. Et là, on voit avec la loi anti-casseurs qu'on est en train de franchir un pas qui, de mon point de vue, est extrêmement dangereux et décisif.
Enfin, dans... Vous avez regardé les manifs samedi, il n'y avait que des gens avec masqués, cagoulés.
Attendez,
donc,
mais qu'on prenne des mesures...
C'est une énième loi qui s'ajoute à d'autres lois qui ne sont
d'accord.
Pas appliquées.
C'est-à-dire qu'on prenne des mesures exceptionnelles et d'urgence pour réprimer une situation qu'on considère comme inacceptable. C'est une chose qu'on inscrive dans la loi pour les mois et les années à venir, des mesures dont on se repentira un jour. Oui. Parce que, souvenez-vous de ce qui s'est passé, alors vous étiez pas né, mais moi je l'étais, en 1939.
Vous êtes si jeune que ça ?
Je suis si jeune que ça.
Vous avez joli fop alors, tu as 81 ans.
Lorsque on a déclaré, il y a eu une déclaration de guerre, on l'a oublié, mais il y a eu des arrestations préventives d'opposants politiques, notamment communistes. Et Dieu sait si je ne suis pas communiste. Ah bon ? Mais on sait que, oui, curieusement, je sais que vous surprenez. Et on sait que dans les situations d'urgence, ces lois qu'on conçoit en temps de paix, en disant mais finalement c'est pas si grave, etc., deviennent des véritables boomerangs.
Parce que là, c'est une manière d'instaurer l'état d'urgence.
C'est une espèce d'état d'urgence permanent avec la faculté qui sera donnée au préfet de dire je retiens préventivement quelqu'un d'aller manifester. Aujourd'hui, on se dit, bien entendu...
C'est pas nouveau.
Sauf qu'elle avait été abolie en 80, cette loi, par François Mitterrand.
Il y a toujours eu la possibilité pour le préfet, notamment lorsqu'il y a des visites d'État étrangers, d'avoir des gens qui sont des opposants notoires, de leur demander de s'écarter un peu.
Ce qui est particulier, c'est que cette faculté sera très élargie à de l'arbitraire, et que de ce point de vue, elle est une arme qui est mise entre des mains...
Juge.
Comment ?
Sous le contrôle du juge.
Là, l'autorité administrative sera
sous
libre.
Sous le contrôle du juge.
A
toute décision.
Non, mais d'accord. A posteriori.
D'accord.
C'est-à-dire que le jour de la manif, on ne pourrait rien faire.
Alors, le droit de manifestation est un droit constitutionnel, dont acte. Mais il n'en demeure pas moins que dans la jurisprudence du Conseil d'État, il y a toujours un encadrement possible. Donc, il faut arrêter,
oui, je dirais. Mais il y a une règle qui, ça ne peut être ni général ni absolu. C'est la règle du Conseil d'État. Et qui, deuxièmement, qui, vous bon, savez très bien que le
en
sujet...
En fonction de cette loi, elle s'appliquera dans les cas de... Mais si, la loi s'appliquera dans des cas précis. C'est-à-dire quand il y a véritablement un risque d'affrontement où il y a, on sait qu'un certain nombre de casseurs vont venir, moi, ça ne me choque pas. Donc, arrêtez de fantasmer. S'il vous plaît, vous fantasmez.
On verra.
C'est la trahison des clercs. Allez, la nouvelle trahison des clercs.
Juste une précision sur ce que vous avez dit, Jacques Mire, tout à l'heure. Il y a une auditrice qui nous dit, bien entendu, on aurait retrouvé le corps du footballeur, pas seulement l'épave. Non, on n'en sait rien pour l'instant.
On a retrouvé l'épave. En l'espace de 2 jours ce que des services publics n'ont pas su faire. Ouais. Et ça m'interroge.
Ouais. Voilà, non, mais c'était une précision, on n'a pas retrouvé encore le corps.
On a retrouvé un corps, je ne sais pas à qui il appartient.
Pierre, votre coup de gueule.
Oui, mais ça va un peu dans la même logique que la loi anti-casseur, c'est le retour de la Pravda, quoi. Moi, j'en peux plus, depuis le 31 décembre, on voit, on mange, on dort, Macron, partout.
J'approuve.
31 décembre, 20 minutes,
moi aussi.
20 minutes de Macron à la télé, une lettre aux Français... Un débat de 7 heures, un deuxième débat de 7 heures, encore hier soir un débat, il est partout sur les chaînes d'infos, près de 30 heures. Près de 30
heures
de président de la République
pour le reste.
Ça va être comptabilisé.
On est à quelques mois
de
l'élection européenne.
C'est les chaînes d'infos. Non, mais, quand vous zappez hier, il y a les 4 chaînes d'infos
oui.
qui diffusent en même temps.
Quelle pluralité,
c'est quand même dingue.
Non, mais ça, c'est dingue. Alors, il y a Macron à qui.
Alors qu'il y avait Gérald Darmanin aussi
j'ai compris,
qui était en séance.
Je parlerai moins, je vais écouter. Résultat, en un mois, il parle une heure par jour avec les rediffs. Je ne vous dis pas ce que ça fait pour les Français. On bourre la tête des Français. Après,
mais
qu'est-ce
vous
qu'on
pouvez
fait
pas dire, on ne veut pas l'entendre.
Non, attendez.
Vous dites, il parle pas, on l'engueule, il parle, on
l'engueule.
Non,
mais entre parler et parler tous les jours pendant des heures, faire des one man shows où il n'écoute rien
même,
et
il y a quand même une politique spectacle.
Et puis surtout la politique spectacle, c'est que on remplit des salles faites à sa main. Et ça, maintenant,
pas toujours.
Ça suffit.
Il s'est fait ramasser.
Pour les maires de Normandie, pour suivre la question, c'était pas du tout une salle à sa main.
Sur le premier débat. Voilà. Sur le premier débat.
D'accord.
On est d'accord.
Là où je vous suis moins, j'entends ce que vous dites. Alors, c'est vrai qu'il y a la logique des chaînes info, la logique de, en fait, l'audience. Quand on dit, on bourre la tête des Français, on a souvent eu des pouvoirs qui avaient toutes les télés aux ordres, qui ont été platement et sèchement battus aux élections. N'oublions pas que le président Macron, en dehors d'un vrai rebond de popularité, reste structurellement impopulaire dans toutes les catégories, avec des raisons d'impopularité extrêmement profondes. Et là, autant d'interventions ne changent pas fondamentalement
la donne.
Nous sommes
des rebelles.
Mais en même temps, pourquoi ils montent dans les sondages? Depuis, il y a plusieurs sondages qui
coulent. Ils montent parce qu'ils remobilisent son socle, parce que la droite et le centre-droit clairement soutient Emmanuel Macron, et parce qu'il y a une partie de Français qui se qualifient eux-mêmes de raisonnables, attachés à l'ordre et à la sécurité, qui ne supportent plus une forme de chienlit lié au mouvement des Gilets jaunes. C'est comme ça qu'ils nous le disent.
Parce que les Français, une partie des Français, ont intégré ce que disait Eric tout à l'heure. C'est le moi ou le chaos. Donc, on peut tout se permettre. On peut se permettre de parler à la télé, en continu, toute la journée, de remplir des salles, de les blinder, de les choisir, de faire une loi anti-casseur qui, dans 15 ans, moi, je suis d'accord, on la regrettera tous. Et de dire, oui, mais attendez, braves gens, dormez tranquille. Parce que si c'est pas moi... C'est le chaos. Mmh. C'est soit Le Pen, soit Mélenchon. Vous préférez quoi? Vous, braves Français raisonnables, votez Macron. Mmh. Eh bien, cette imposture, ça suffit.
Mais les salles, ce sont des salles en province.
Qui sont faites par les préfets avec le cabinet du président de la République.
Mais la responsabilité de la diffusion sur les chaînes d'infos.
C'est les chaînes d'infos.
Poutine
ferait ça, on aurait une campagne en France pour dire « Regardez la dictature en Russie, etc. » Et il faut quand même se réveiller à un moment donné. C'est vrai que hier, il y a eu, sur les 4 chaînes d'infos en même temps, 6 heures non-stop Macron.
C'est vrai.
Et c'est ahurissant.
Et c'est la troisième fois que ça se passe depuis le début du mois de janvier.
Alors, à mon avis, cette politique spectacle peut aussi se retourner
contre lui.
Parce que trop, c'est trop. Allez. Et donc, il faut pas... Les Français sont pas si imbéciles que vous le pensez.
Je suis d'accord.
Allez, on se retrouve dans un instant. 0826-300-300. On va parler justement de la grève aujourd'hui, de la perquisition chez Mediapart. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h, on va parler de la perquisition chez Mediapart, de la grève générale aujourd'hui. Est-elle suivie? En tout cas, elle l'est beaucoup dans la région de Toulouse, c'est ce que nous a dit Christine Bouillot. Moi, je voulais faire un coup de gueule, ou un coup de je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je n'ai pas de jugement à porter, mais en tout cas, Emmanuel Macron choisit très mal ses amis. Vous savez qu'il y a Yacine Bellatar qui a fait polémique parce qu'il est dans l'entourage proche du président de la République. Bah, il le soutient plus, dites donc. Écoutez, c'était hier sur LCI.
La République En Marche étant un ramassis, faut dire la vérité aujourd'hui, d'incompétents avérés.
Parce que les petits
députés... Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, à un moment, les députés d'En Marche...
Ils ont été élus à l'Assemblée nationale.
Non, mais c'est pas le problème.
Sur une enseigne commerciale.
Bien sûr. Non, mais je veux dire, on n'a pas élu des députés En Marche. On a donné le pouvoir à Emmanuel Macron. C'est une nuance importante. Je pense qu'une chèvre aurait eu l'étiquette En Marche. Elle aurait fait 20%. Quand je vois comment ils se comportent, d'ailleurs pire, quand je vois comment ils ne se comportent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent à l'Assemblée, ils votent. Ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils peuvent débattre et remettre en question parce que la loi anticasseur, bien sûr qu'il y a plein de choses dont il faut qu'on discute.
Elle ce sera posée... voté demain à l'Assemblée.
Mais le fait
voilà, donc ami d'Emmanuel Macron, donc je citerai simplement Voltaire, hein, mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. C'est quand même, c'est pas faute de l'avoir prévenu, je pense, non, Emmanuel Macron. Un petit mot sur ce...
Il a eu quelques liaisons dangereuses, ça on le sait. Il suffit de ne pas avoir la mémoire trop courte. On serait mémoré l'affaire Benalla.
Oui, absolument. Bah, vous voulez que
ça date de la semaine dernière, donc oui. Finalement la mémoire, ouais. ça non, revient tellement régulièrement. Que...
C'est vrai que
non, mais c'est
Macron
quand même étonnant.
A une espèce
c'est
de
quand
fascination.
Même étonnant.
Il y avait un article pas mal dans Le Monde. Vous avez les parcours out of the box.
Oui, c'est ça.
Et il a une espèce de fascination pour ce qui n'est pas lui. Et qui est, entre guillemets,
la
canaille,
du
sans
bon
péjoration.
Canaille, ouais.
Voilà, mais il y a toujours eu...
C'est le fils
eu, hein.
de bonne famille qui a une fascination comme ça.
Mais il y a toujours eu, pour avoir discuté avec des plus anciens, des gens qui sont nés comme vous, qui étaient là en 39, ils vous ont expliqué que dans de tout temps, il y a eu la fascination pour des gens un petit peu borderline. Mais là... c'est vrai que c'est quand même... Enfin, il lui a tendu la main, il a... Non ?
Ce qui est aussi drôle, c'est que ce monsieur Bellatar se proclame comique et à chaque fois qu'on l'entend, il ne fait pas le moindre trait d'humour, il se permet de juger les choses de manière toujours outrancière. Alors, il met le doigt sur un phénomène politique réel, on en parlait pendant qu'on l'écoutait.
Ouais.
L'invasion du calendrier électoral en 2001 a fait que depuis 1997, dernière élection législative, si je puis dire, autonome, les élections législatives constituent un scrutin de confirmation d'élection présidentielle.
Ouais.
De là à insulter, les députés En Marche, c'est la responsabilité de ce monsieur.
Il y a quand même
Bellatar.
Une différence, c'est que cette fois-ci, ils ont tous été élus avec l'hologramme Macron.
Tandis oui, mais que, en 80, il y avait la photo de Mitterrand.
Je suis désolé,
en 2007, il y avait la
j'entends
photo
bien,
de...
J'entends bien, mais il y a eu quand même, des gens qui avaient, je dirais, qui pensaient par eux-mêmes et qui avaient suffisamment de personnalité pour résister. Et j'ai la modestie de le dire que j'en ai été. Parce que même moi, j'ai résisté au président de la République Sarkozy en lui disant non. Et donc, je lui ai dit non sur la réforme constitutionnelle, non sur l'affaire du traité de Lisbonne, etc.
Oui, mais c'était après le mandat.
Oui, d'accord, mais j'ai été élu.
Oui, mais bien sûr. Non, mais là, c'est un cas différent.
C'est une question de personnalité des députés qui doivent penser par eux-mêmes et cesser de suivre les ordres d'en haut.
Non, c'est surtout la différence, moi, je crois, c'est qu'il a mis dans la tête, des Français, Emmanuel Macron, le fait qu'il fallait tout balayer, tout renverser et qu'il fallait aller chercher... des inconnus partout, et c'est pour ça que personne n'a résisté à cette vague macroniste par rapport à ce qu'on a pu connaître et qu'il y a eu un tel flot de macronistes.
Il y a aussi la faute de la droite, il faut dire aussi.
La faute de la droite, la faute de la gauche et tout ça, mais c'est surtout que là, on a élu des gens qui en réalité n'avaient aucune réalité du terrain, aucune connaissance, qui ont candidaté sur Internet, qui ont déposé leur CV. Oui, mais ça amène cette situation dans laquelle on est aujourd'hui.
On est aujourd'hui, voilà. Il y a des gens qui ont... C'est même la maman qui a déposé le CV, alors que la petite fille était aux États-Unis, n'est-ce pas ? C'est quand même assez extraordinaire.
Ouais. J'ai croisé, moi, une députée de La République En Marche la semaine dernière, je ne savais pas, elle m'a dit « je suis députée », je lui ai dit quoi ? Elle m'a dit « bah, La République En Marche, je ne pouvais pas... Quoi d'autre ? Moi, je suis plutôt France Insoumise, mais bon, c'était le seul moyen de devenir députée.
Ah » bah.
C'est voilà. Allez, passons. Non, je ne vous le dirai pas. Passons à ce qui s'est passé hier. Perquisition. La justice a voulu procéder à la perquisition des locaux de Mediapart après la publication la semaine dernière d'un article et d'enregistrement dévoilant une conversation du 26 juillet dernier entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Le média a refusé l'accès de sa rédaction au magistrat. Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart, explique sur Twitter. Le parquet de Paris confie en off ce soir à plusieurs journalistes précise que la vie privée visée dans son enquête préliminaire dans le cadre de laquelle il a voulu perquisitionner Mediapart ce matin n'est ni celle de Benalla ni celle de Kras. Parce qu'en fait, c'est protection de la vie privée. Mais le procureur dit, le parquet dit, ce n'est pas Benalla ni Kras. Donc qui est-ce ? C'est la question que pose Fabrice Arfon.
Il reste que la tierce personne.
Voilà, il reste que la tierce personne. Ça signifie, dit Arfi, que nous avons eu un procureur qui ouvre une enquête pour atteinte à la vie privée sans plainte, il n'y a pas eu de plainte, mais sur la foi d'un signalement d'un fantôme dont on ne sait qui, ni cité ni entendu dans les bandes révélées la semaine dernière.
Alors écoutez, pour être tout à fait clair, je crois que c'est une faute monumentale. C'est une faute monumentale de la part du parquet qui a dû et qui peut toujours recevoir peut-être un coup de téléphone de je ne sais qui. Mais ce qui est certain, c'est que Mediapart, c'est une sorte, je dirais, d'organisme de presse qui sort un certain nombre de papiers qui sont loin d'être inintelligents. Et bien évidemment, essayer d'aller perquisitionner... Ça fait longtemps qu'on n'a pas perquisitionné.
Un
organisme de presse. Donc c'est une faute, ça c'est évident, qui va revenir en boomerang d'une manière ou d'une autre.
C'est une faute très grave et inquiétante dans une dérive qu'on est en train d'apercevoir. Parce qu'en réalité, le procureur, je ne sais pas quelle est la tierce personne qui a pu lui donner cette idée de vouloir aller faire cette perquisition hier au siège de Mediapart. Ouais. Mais pourquoi est-ce que le procureur fait ça ? Pour être bien vu de quelqu'un ? Pour essayer d'avoir des informations à retransmettre au pouvoir directement ? Tout ça, non seulement, est inquiétant, et c'est une dérive très dangereuse. Et Eric le disait tout à l'heure, imaginons un instant qu'il se produise la même chose en Russie, en Bolivie ou au Venezuela. Mais qu'est-ce que les oppositions diraient ? Parce que le procureur de Paris, il est nommé par qui ?
Par le président de la République.
Par le président de la République. Les amis du président de la République.
Peut-être expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que le procureur, le parquet, qui saisit, comment ça marche.
C'est l'accusateur public. Je rappelle que quand on a aujourd'hui la volonté d'avoir des parquets indépendants, je dis attention. Parce qu'en Angleterre, qui est quand même une démocratie, l'accusation est portée par qui ? Par la police. Donc il y a un moment, il n'est pas un juge. Mais il déclenche un certain nombre d'enquêtes judiciaires, sous le contrôle d'ailleurs de la chambre d'accusation, etc. Donc il est bien évident que... ça ne me choque pas que le parquet, à la limite...
Soit aux ordres.
Soit aux ordres, ou du moins que ça soit clair et transparent. Voilà, ça c'est clair. C'est ce qu'avait été d'ailleurs la réforme Meillery.
C'est le cas aujourd'hui.
Visiblement, on est un peu dans des interrogations fortes, puisqu'on entend qu'il n'y a pas de plainte, on ne sait pas d'où ça vient, et qu'il aurait fait ça de sa propre initiative. Tu parles, oui.
Tout le monde sait que c'est impossible. On sait qu'il y a une instruction du garde des Sceaux. C'est comme ça que ça se passe sur ce genre d'affaires politiquement extrêmement sensibles. Un procureur, même s'il décide de son propre chef d'ouvrir une enquête préliminaire, ne le fait pas sans prévenir la chancellerie qui va le faire sur des dossiers aussi sensibles. Donc il est impossible que le pouvoir politique ait été tenu. Mais si on peut redire quand même aux auditeurs qui ne le savent pas forcément, il faut rappeler que la France est une démocratie à part, puisque dans sa constitution, la justice n'est pas un pouvoir
heureusement,
le législatif ou l'exécutif. C'est une autorité judiciaire qui constitutionnellement est placée sous l'autorité du gouvernement.
Un pouvoir, un corporatisme de cette manière, alors là, vous ouvrez, je dirais, la porte de Pandore, la boîte de Pandore.
Ça s'appelle juste la démocratie libérale.
Non. Désolé, elle est soumise à la loi. Et jusqu'à nouvel ordre, les pouvoirs, parce qu'une justice qui ne serait donc pas élue, elle est, je dirais, autosuffisante en elle-même.
Oui.
Et donc, je suis désolé.
Ce qui serait bien.
Ce serait pas bien.
Mais ce qui s'accompagne, Jacques, de ce genre d'indépendance de la justice, c'est l'habeas corpus, c'est-à-dire la fin de ces mises.
Il faut s'interrompre quelques secondes.
Ils sont hors de tout soupçon d'être partiaux. Mais il y en a d'autres sur lesquels on peut se poser des questions.
On a beaucoup de réactions. On y revient dans un instant. 0826-300 à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
On revient sur ce qui s'est passé hier, la justice qui a voulu perquisitionner les locaux de Mediapart après la publication d'un article et d'enregistrement qui dévoilait des conversations entre Alexandre Benalla et Vincent Kras, une procédure pour le moins étonnante. Et on a en ligne avec nous Philippe Doloron-Sainte-Marie. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous vos invités.
On vous écoute.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce sujet ?
Ben, je voulais dire que je suis très inquiet pour l'avenir de mon pays, là, franchement. Notre monarque, qui se permet de donner des leçons de démocratie à Maduros, je pense qu'il ferait mieux d'appliquer la démocratie dans notre pays, parce que là, entre l'interdiction de manifester qui va arriver avec la loi anti-casseur, parce que, voilà, lui, s'il veut que des manifs avec des bisounours, des roses et des bonbons, c'est sûr, on peut aussi manifester comme ça. Entre ça et essayer de museler la presse comme aux pires heures de l'Union soviétique, là, franchement, je suis très inquiet quand même pour la démocratie. Là, on s'en va droit vers la dictature. Alors, ça ne me surprend pas, hein, de Macron. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'on se réveille, parce que là, comme a dit le député de Courson, je sens que les mois et les années qui arrivent risquent d'être sombres avec notre cher monarque.
Donc ça vous a inquiété. Merci de votre appel. Qu'est-ce qui a pu se passer quand même hier, Frédéric Dabi? Comment expliquer sans plainte que le parquet se saisisse et décide d'une
perquisition? Il était inspiré, le parquet.
Oui alors, à titre personnel, ouais. Je n'en ai absolument aucune idée. Non. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'impact sur le regard des Français. Ouais. C'est vrai que l'affaire Fabienne, j'ai eu tendance au mois de juillet à la mettre à distance. Ça a suscité de l'intérêt du côté des Français. Elle a mis à mal la logique de distinction d'Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs. Une de ses forces, c'était « Ah, ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas Nicolas Sarkozy dans l'incarnation de la fonction ». De ce point de vue-là, il s'est en fait banalisé. Le souci là, c'est d'une part, c'est que cette affaire est toujours au basque, si je puis dire, du président. On n'est pas sur des actes, mais on est sur des saisons 2, 3, 4. À chaque fois, ça vient réactiver des doutes des Français sur l'incarnation de la fonction présidentielle. Et il y a un cocktail qui est d'un côté cette affaire qui n'en finit pas de finir. On est sur une logique de feuilletonnage. Et puis, les petites phrases d'Emmanuel Macron. De la même manière, et souvent sur votre plateau, j'ai eu tendance à dire non, les Français ne sont pas tous à suivre les propos présidentiels plus ou moins bien interprétés. Mais là, très très clairement, ces phrases se sont sédimentées et ont sculpté un sentiment chez les Français de distance.
Vous entendez, c'est
un cocktail de mépris et d'arrogance du président, même si, avec le grand débat que l'on peut critiquer, avec les contacts avec les Français, ce soupçon de mépris, d'arrogance, surtout de déconnexion, est toujours très fort chez les Français, mais tant à refluer.
Tant à refluer.
Jusqu'au prochain épisode.
Oui. On est sur une logique de
chasser le naturel, il revient au galop. Parce qu'il y a un problème qui est propre à Macron, qu'il ne peut pas s'empêcher, ces petites phrases vachard.
Mais il ne peut pas s'en empêcher. Et hier soir, moi, j'ai écouté le débat qui tenait devant principalement des élus. Mais écoutez, c'est parce que les gens hier n'avaient pas des sujets qui les intéressaient spécialement. Jacques Myard est élu, comme moi, on est des élus locaux. Mais moi, que le président de la République, qui n'a jamais été élu dans une commune, vienne donner des leçons, comme il a fait hier soir à des maires de banlieue, sur la loi SRU, sur les dotations aux collectivités, en disant « Non, c'est pas vrai, on n'a pas baissé votre dotation cette année. Tu parles, on a tous eu des baisses de dotations baissées. » Il a fait encore ça hier.
Oui, mais il remonte les élus manches, sont complaisants vis-à-vis de lui.
Mais parce que les élus sont bien polis et bien élevés, et parce que la salle est faite à sa main.
Non,
et quand on voit encore la salle
hier...
Il y a
des élus communistes qui ont été assez
polis. Oui, parce que quand même, ça reste encore un peu raisonnable.
Si on peut revenir à l'affaire Benalla, qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que d'abord, moi, je pense, je tiens à le dire solennellement.
Dites-le, Frédéric.
Perquisitionner un journal pour avoir accès à ses sources, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir en démocratie.
Je crois que c'est surtout interdit, non?
Il y a une loi qui a été en effet votée par des députés complaisants qui a autorisé la saisine de sources dans un certain nombre de cas. Voilà. Ouais. Et qu'on voit bien que chaque fois, ce genre de petite loi qu'on banalise en mais non, ça ne servira pas, c'est chaque fois le prétexte à des débordements. Mais je vais finir. Sur l'affaire Benalla, il y a quand même un sujet de fond, c'est que beaucoup se sont demandé, comme Frédéric Dabi, comme moi, est-ce que ce gars-là, c'est juste un guignol de passage qui dérape, ou est-ce que ça cache autre chose, notamment une relation politique avec le président de la République, ou est-ce que Benalla serait détenteur de secrets qu'il n'aurait pas dû avoir en tant que simple garde du corps du président de la République? Et on s'aperçoit que les mois passants, La théorie du « c'était juste un guignol qui, voilà, qui a déconné, mais au fond, ça n'entache pas le président lui-même », cette théorie-là est de plus en plus fragilisée. Parce qu'on s'aperçoit, il y a eu des révélations hier, sur le soir où Le Monde a fait ses révélations en juillet, Benalla a eu une série de coups de téléphone, 47 coups de téléphone, je crois, ou 37, qu'importe, avec notamment... avec notamment des très proches du président de la République, des très proches des services secrets, des militaires, qui ont, d'une façon ou d'une autre, eu des discussions avec Benalla sur cette affaire.
Et puis il y a aussi la question des contrats avec les oligarques.
Alors,
qui
ce
sont
qui
pas
est
tout
amusant, par ailleurs, c'est de voir que Macron n'arrête pas de dénoncer la russosphère en
Bien
France,
sûr.
Mais que ses proches, ses Benalla, ses chargés de mission à l'Élysée, hors organigramme d'ailleurs, ont pu signer des contrats avec des proches, de, au moins un proche de Poutine, des contrats de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ouais,
qu'est-ce
ouais.
que c'est que cette histoire ?
Moi, je l'ai dit ici la semaine dernière, j'étais assez troublée du fait que les chaînes d'info relayaient assez peu cette information le jour où c'est sorti. J'étais, moi, devant ma télé, je zappais de chaîne en chaîne.
Et
on
vous
a parlé...
étiez devant Emmanuel Macron
Non, non,
un grand
pas
débat,
ce soir-là, dites donc.
Pas
ce soir-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement. Je trouve que le relais n'a pas été, l'impact n'a pas été aussi grand, je pense, qu'il aurait pu
Valérie,
être.
Ce que vous est extrêmement grave.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que des médias seraient aux ordres. C'est ça.
Non, mais moi j'ai travaillé 17 ans dans une chaîne d'info, je n'ai jamais eu aucun ordre de qui que ce soit.
J'entends bien, mais vous êtes une femme libre.
Certainement. J'ai été étonnée de voir et là du coup on en remet une couche, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu cette perquisition.
Le problème est que effectivement on sait très bien qu'il y a des liens entre l'Élysée et un certain nombre de puissances financières qui ont notamment juste avant le discours des vœux. On dit au président de la République, hein, tu lâches, sinon on va terminer au bout d'une pique. Bon, donc on voit très bien qu'il y a une connivence de ce côté-là. J'en veux pour preuve également le fameux article 40 d'Olivier Marleix, qu'il a saisi le parquet financier suite à l'affaire Alstom en disant c'est quand même troublant, il y a eu des gens qui ont touché de l'argent à la vente d'Alstom et on les retrouve dans les financeurs de M. Macron. Et il a parlé de pacte de corruption. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, il y a quand même un certain nombre de faisceaux d'indices qui montrent que c'est pas bleu-blanc et que, je dirais, il n'y a pas de... Je dirais, à tout événement, il y a une cause.
Mais parce qu'il y a un élément qu'on a très peu soulevé, c'est qui sont les financeurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.
C'est ce qu'on vient de
parce
dire.
Parce que c'est ce que vous venez de dire à l'instant, mais c'est un vrai sujet. Parce que ce président de la République qui arrive de nulle part, sans parti politique, sans structure financière, qui arrive à se payer une campagne présidentielle avec quelques faits généreuses qu'on ne connaît pas, bon, il protège ses faits généreuses, pourquoi pas, mais derrière, quand il y a collusion avec les milieux de l'argent, avec des milieux un peu troubles et obscurs, comme on vient de le dire, avec des oligarques russes, bah vous savez, dans le passé, il y a eu une affaire, hein, c'était l'affaire Kadhafi-Sarkozy. J'espère que dans quelques années, on ne trouvera pas une affaire avec Emmanuel Macron et
là,
un oligarque russe.
Allez,
mais moi, je m'interroge.
Un peu loin.
On va
parce
un petit
que
peu vite
non,
sans,
là, vous allez
sans
preuve.
Mais moi, j'interroge juste de savoir pourquoi est-ce qu'on protège aussi des gens comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on va vouloir perquisitionner un journal pour trouver les sources, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire leur enquête ? Si le pouvoir n'avait rien à se reprocher, il y a un long moment qu'on aurait eu des explications bien claires sur cette affaire Benalla, qu'on aurait dégagé Benalla du secteur et qu'on arrêterait un petit peu toutes les semaines d'avoir un nouveau feuilleton. Moi, c'est tout ce que je dis. Après, je n'accuse rien, ni personne, je n'ai pas de preuves.
Allez, on se retrouve dans quelques instants, on va parler de la grève d'aujourd'hui. La CGT organise donc une grève nationale de 24 heures. Rungis a été bloqué, donc tout ça pour réclamer une hausse des salaires et la justice fiscale. Donc on va voir s'il y a une convergence des luttes entre les Gilets jaunes et les syndicats. On en parle dans un instant, 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Alors, grève générale aujourd'hui, grève nationale de 24 heures à l'appel de la CGT. Le mot d'ordre, une hausse des salaires, une meilleure justice fiscale. Alors, est-ce que les syndicats ont toujours la même influence ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une convergence des colères ? Tout à l'heure, Christine Bouillot nous racontait que les Gilets jaunes avaient bloqué un péage près de Toulouse et qu'ils se préparaient à rejoindre les défilés cet après-midi. Qu'en pensez-vous les uns les autres ?
Parce que moi, je pense qu'il y a quand même... Alors, il faut se méfier aujourd'hui de ce qui se passe, de ce qui passe sous le scope. C'est-à-dire qu'objectivement, il n'y a pas eu de signaux sur la scène habituelle du débat public d'inquiétude sur une mobilisation particulière. Mais c'est vrai que depuis le 17 novembre, on peut penser qu'il se passe des choses dans l'opinion française sous le scope et qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Aujourd'hui, aucun avertisseur traditionnel n'a laissé penser que cette coalition allait fonctionner. Maintenant, il n'est pas impossible que, notamment localement, il y ait des réactions de catalyse qui permettent d'avoir des vraies surprises et des vraies irruptions de mouvements collectifs.
Oui. Moi,
je voudrais dire que, au-delà de ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est la place des syndicats, je dirais, dans une démocratie. On a beaucoup dit, et ça a été, d'ailleurs, le président a été critiqué pour ça, c'est tous les corps intermédiaires qu'il avait évincés, les méprisants, etc. On a même entendu le président de la CFDT dire « ça fait au moins 6 à 8 semaines que je n'ai pas été reçu et que je n'ai pas parlé à Macron ». Et donc, je crois que la place des syndicats doivent revenir. Ils sont déconsidérés largement aujourd'hui dans l'opinion publique. Mais on ne peut pas faire fonctionner une démocratie sociale sans des syndicats. Pour moi, c'est évident.
Enfin, de la même manière qu'il y a des maires.
Pardon ?
Ils représentent quoi aujourd'hui ?
Ils représentent malheureusement une faiblesse structurelle, notamment dans le taux de syndicalisation, en dehors de la police. En dehors de la police, où il y a un très fort taux de syndicalisation, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on leur reproche beaucoup de choses. Eh bien, je crois qu'il est urgent que les syndicats reviennent, peut-être se réforment, peut-être soient plus transparents.
Mais est-ce que les Gilets jaunes en veulent ? Non,
la plupart... Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas gouverner ce pays avec des RIC, par des référendums. Vous en faites une fois, deux fois... Les RIC, c'est les référendums d'initiative citoyenne. Il n'en demeure pas moins que c'est pas comme ça que ça gouverne. Donc si les corps intermédiaires, que ce soit les associations, que ce soit les syndicats, que ce soit les partis politiques
sont
ne
trop faibles,
reviennent pas, eh bien, je crois qu'on aura effectivement un président sur son Olympe et le peuple qui va dire fout le camp.
Mais d'ailleurs, on l'a vu dans les dernières manifestations qui malheureusement ont été émaillées de nombreuses violences, dans des manifestations qui peuvent être encadrées par des... SO, des services d'ordre, des syndicats traditionnels et classiques, on en voit malheureusement, mais on voit aussi moins de débordements. Il y a besoin d'avoir des cadres, il y a besoin d'avoir des interlocuteurs avec qui on puisse discuter. Et moi, je suis d'accord, il faut que les syndicats, les élus, les corps intermédiaires dans leur ensemble soient plus forts, puissent redevenir sur le devant de la scène pour discuter. Parce que sinon, Emmanuel Macron ne pourra pas discuter avec 65 ou 66 millions d'individus. Bien ça sûr, ne fonctionnera pas. Il n'y aura jamais de réponses qui seront correctes.
On a Yvette du Tarn avec nous. Bonjour Yvette.
Oui, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, voilà, je suis retraitée, mais je suis encore adhérente à la CGT. Et je soutiens aussi le mouvement des Gilets jaunes. Bon, je pense qu'il porte un message qui me touche personnellement. C'est peut-être pour ça que je me suis sentie vraiment concernée. Alors, nous, entre autres, oui, la CSG, puis j'ai des enfants aussi qui ont des bas salaires et je trouve ça assez indécent. On ne nous permet pas de vivre décemment. Alors, évidemment, vous parliez, j'ai entendu là tout à l'heure, des grands débats, des discussions, des négociations, des concertations. Mais c'est bien ça qui a tué, je pense, aussi les syndicats. C'est que ces concertations, elles n'ont jamais débouché. Il n'y a jamais eu la moindre concession de fait aux salariés. Alors comment voulez-vous que ces gens soient crédibles maintenant ? Comment voulez-vous que les syndicats soient crédibles aux yeux des Gilets jaunes ? Évidemment, ils sont aussi, entre guillemets, pourris que les politiques. Et je comprends un petit peu ces réactions-là aussi. Alors je partage le mouvement des Gilets jaunes pour toutes les raisons dont j'ai parlé. Et ce que je regrette, c'est qu'il y ait des tentatives de division. Parce que tout ça, tout ce que l'on entend, et les Gilets jaunes, la baisse d'audience, la baisse de sympathie et tout ce que l'on peut nous dire, ça va dans c'est une tentative de division de ces mouvements.
Mais ce sont eux-mêmes qui n'ont pas envie d'être ensemble, les syndicats et les Gilets jaunes. Enfin, les syndicats aimeraient bien récupérer le mouvement et qu'il y ait une convergence, sauf qu'on entend un certain nombre de Gilets jaunes qui n'en veulent pas.
Oui.
Frédéric Dabi.
Oui, on n'est pas du tout sur la logique de mai 68. Alors, ce qui est assez intéressant, en mai 68, il y a eu une récupération qui a réussi. Il y a eu un Grenelle, des avancées sociales, même si sur le plan politique, le pouvoir gaulliste pour un an seulement a été largement renforcé avec une chambre bleu horizon rarement vue à part celle de 1993. Ce qui est vrai, quand on parle des corps intermédiaires, les Français opèrent une distinction entre les élus locaux qui bénéficient d'une cote de confiance extrêmement forte parce que eux,
il pèse sur le cours des choses, il change la vie, hein, pour reprendre une ancienne mitterrandiste.
Pour l'instant.
Il continue, même si il y a une
laissez-moi finir. Ils ont de moins en moins de moyens financiers.
J'allais le dire, mais il y a une intériorisation des contraintes. Par contre, les syndicats n'échappent pas à une véritable défiance, d'une part parce qu'ils sont dans une logique d'échec, et l'acte lourd de l'échec du mouvement contre la réforme Sarkozy-Fillon verse de 2010, où il y a eu plusieurs samedis de suite, des millions de Français dans la rue, ça n'a pas changé les choses. Et puis, il y a la question de la représentativité et de la très faible affiliation des salariés français au syndicat. Ouais. Maintenant, la convergence, on ne la voit pas, puisque même au moment de la réforme de la SNCF, les retraités extrêmement mécontents de l'action du gouvernement, on s'en souvient, soutenaient la réforme et n'allaient pas vers un soutien en direction des cheminots.
Ouais. Ce qu'il faut, je pense qu'il faut présenter les choses un tout petit peu différemment. C'est qu'aujourd'hui, Internet, dans la pratique, a ubérisé l'action syndicale ou revendicative. Et que, on va prendre l'exemple de Laurent Berger, quand est-ce que le militant de base de la CFDT peut interpeller Laurent Berger ou entendre la parole de Laurent Berger? Il ne peut jamais l'interpeller directement et il l'entend quand Laurent Berger passe à la radio ou fait des lettres syndicales envoyées par Internet. Mais il n'y a pas d'interaction possible. Regardez Éric Drouet. Là, tout le monde peut l'interviewer, tout le monde peut l'interpeller. Le gars est au milieu des manifs. Il ne passe jamais à la télé. Il faut se demander pourquoi les leaders syndicaux qui font le choix d'une communication purement institutionnelle à l'ancienne sont marginalisés. Et aujourd'hui, on a des gens qui n'interviennent jamais dans les médias mainstream et qui sont extrêmement populaires et qui ont une capacité de mobilisation supérieure à n'importe quel leader syndical.
Donc il faut qu'ils fassent une révolution Internet, quoi.
Il faudrait qu'il y ait les syndicalistes apprennent à se servir d'Internet. Oui. Moi qui travaille quand même beaucoup avec syndicalistes, je n'en vois aucun qui sache se servir couramment d'Internet comme d'un outil de travail. Pour eux, c'est resté un gadget. Et ils n'ont pas
On a changé le monde, je suis d'accord.
Voilà.
Oui, on a changé le monde, mais malgré tout, moi je pense qu'il faut aussi relativiser un petit peu ça et faire attention. Que ce soit la CGT ou la CFDT, même s'ils ont perdu fortement le nombre d'adhérents, ça reste quand même des syndicats qui ont beaucoup d'adhérents. Ouais. 600 000, 700 000 adhérents, grosso modo. La page Facebook d'Éric Drouet, c'est 125 000 personnes. Il faut aussi relativiser tout ça, parce que le scope qu'on a avec Facebook, avec Twitter, avec Internet, qui est aussi un miroir déformé, fait une chose assez claire, c'est qu'Éric Drouet, dans 6 mois, ou dans 1 an, je ne sais pas, on se rappellera plus qui c'est.
Mais j'en suis pas sûr. Hein,
mais je crois que tout ça va très vite. Je pense que tout ça va très vite
et
que les gens le connaissent pas
et que le connaissent se trouvent dangereux.
Donc il faut aussi faire attention. Bien sûr que les syndicats, comme les partis politiques, comme les élus locaux, doivent se réformer, doivent communiquer différemment. Mais quand on a CGT plus CFDT qui représentent plus +1 200 000 adhérents, c'est pas une force marginale.
Alors le problème, c'est que en réalité, c'est la situation économique de la France. Tout à l'heure, vous parliez de l'affaire de 68, où ça s'est terminé par le fameux Grenelle. Bon, aujourd'hui, malheureusement, sauf à casser la baraque vis-à-vis de Bruxelles sur les 3%, plus sur un certain nombre d'autres dogmes qui sont des véritables carcans, le président de la République n'a aucune marge de manœuvre. Et aujourd'hui, s'il convoquait les syndicats pour dire quels sont le plan social qu'on met en, il n'a pas de marge de manœuvre. Et donc, il est prisonnier lui-même de l'idéologie de l'euro-béatitude. Et donc, c'est en cela qu'il y a un problème. Et c'est en cela que, à mon avis, le bout du tunnel risque de se terminer par des frustrations. On peut lâcher sur les 80 km/h. Ensuite, on va bouffer du député en disant il y en a trop, on va en diminuer.
Ça ne remet
pas la pyramide de le pouvoir d'achat sur ses bases.
Bien sûr. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, on le voit, là, il y a 10 milliards d'euros qui ont été lâchés avec le mouvement des Gilets jaunes.
Et après, il n'y a plus rien.
Et derrière, on voit bien que le pouvoir est aujourd'hui totalement bloqué. À partir du moment où ils ne veulent pas revenir sur leur dogme de l'ISF et ils ne veulent pas rétablir l'ISF, là, maintenant, ils veulent toucher des niches fiscales. Ouais. Mais ça va être encore pire parce qu'on va aller taper dans les classes moyennes supérieures qui prennent des contrats à domicile, qui ont des gens qui vont faire de l'immobilier locatif, qui vont changer leurs fenêtres, etc. On va aller taper dans ces niches fiscales-là, ce qui fait qu'on va encore raboter la classe moyenne et moyenne supérieure, évidemment, il faut aussi relativiser tout ça, sans apporter de réelles réponses. Parce que tant qu'on ne reviendra pas, et moi je ne le partageais pas il y a quelques années encore, mais tant qu'on ne reviendra pas sur ce dogme qui nous est imposé, de ne pas bouger du déficit des 3%.
Il n'y a pas que ça.
Et non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Et qu'on ne pourra plus remettre l'ascenseur social en marche, ça fonctionnera pas.
Moi,
ça
n'a rien à voir. Je propose, ouais. Pardon.
On peut faire moins de 3% de déficit et avoir un ascenseur social qui marche.
Non, parce que avec votre logique, c'est qu'il faut supprimer beaucoup trop de services.
Il y a deux choses pour relancer la machine.
Il faut faire des services publics intelligents.
Il y a deux choses pour relancer la machine. La politique économique de Macron est un oxymore, c'est des contradictions. Il a tapé sur, avec la CSG, il a tapé sur la consommation, notamment ceux qui dépensaient, sur les retraités. Et ensuite, il n'investit pas. Dans le budget de l'État en investissement, il y en a 2%, c'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Et donc, il faut sortir de la règle qui a été abandonnée avec Maastricht, qui dit que les banques centrales ne peuvent pas faire des avances à l'État pour l'investissement. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. Alors, les Allemands vont être en lévitation. Mais l'assouplissement quantitatif est déjà contraire au traité. Donc, il y a un moment, il faut sortir des dogmes. Je veux dire, on ne gouverne pas l'économie avec des traités.
Il faut réviser le traité. Il faut changer le mandat de la Banque centrale.
Quelques mots, il nous reste peu de temps sur les niches fiscales. Donc, Gérald Darmanin qui relance ce débat. Donc, encore une manière de diviser les Français, de les monter les uns contre les autres. Les plus riches qui doivent payer pour les plus pauvres sur ces niches fiscales. Qui portent assez mal leur nom parce que ça englobe un certain nombre de choses.
Il faut préciser que ces niches fiscales, contrairement à ce qu'on fait croire, elles ne sont pas perdues pour l'économie. C'est par exemple les frais de garde pour les enfants, des gens qui recrutent un employé de maison, des cadres supérieurs qui recrutent des employés de maison pour s'occuper de leurs enfants. Si on remet la niche fiscale en cause, on va revenir au travail au noir et on va supprimer des emplois.
Il y a 470 niches fiscales en France et puis la plus populaire, c'est la loi Pinel, donc qui permet de défiscaliser en achetant un logement. Mais ça fait des logements sociaux aussi, donc c'est toute une économie.
Non, sur les logements sociaux, le gouvernement a réussi cet exploit d'augmenter la TVA. Alors je peux vous dire...
Et de casser la dynamique de construction des logements sociaux alors qu'on en a besoin.
Aujourd'hui, là, véritablement, il faut qu'il revoie sa copie. Oui. C'est une catastrophe. Il a la suppression de l'ISF à moitié, dont acte. Mais ensuite, on réduit les APL en même temps. Mmh. Mais une bévue politique de faire ça.
Mais comment vous comprenez ça? On prend
l'argent...
Parce
qu'on a affaire à des technocrates.
C'est l'idéologie. C'est l'idéologie qui a le pouvoir. Mais Bercy, ce qui s'est passé, je vais vous dire très simplement, ce qui s'est passé depuis 2017... c'est que Bercy s'est dit enfin, toute la technocratie de Bercy s'est dit, ça y est, enfin, on va pouvoir ressortir du placard tout ce qu'on avait préparé depuis des années, et on a un gouvernement qui, face à nous, qui est un gouvernement de techniciens et de technocrates, et on va pouvoir tout faire passer, tout sortir. Ce sont des manières idéologiques qui ont diminué la croissance, qui cassent l'investissement, qui cassent les constructions, et qui aujourd'hui vont taper sur la fiscalité de l'ensemble des Français. Ça s'appelle de l'incohérence politique, et ça va nous amener dans le mur.
Une précision de notre ami Christian de Villeneuve, qui participe à l'émission de temps en temps, qui nous dit, il y a déjà eu des perquisitions dans des journaux, perquisitions au point à l'équipe, effectivement, et on se souvient dans l'affaire Clearstream, et puis dans l'affaire Cofidis, il y a eu, mais c'est relativement...
Ça n'a pas rapporté beaucoup au pouvoir en place.
Et c'est assez...
Cofidis, c'était sur des questions de dopage.
Cofidis, c'était sur des questions de dopage, c'était pas exactement... Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des perquisitions. Cofidis, ça date de 2005, et Clearstream, ça doit être aussi...
2005-2006, oui.
2005-2006, donc ça fait quand même une quinzaine d'années qu'il n'y a pas eu plus que ça de perquisitions.
Une perquisition sur une affaire aussi sensible, ça ne peut qu'ajouter, je dirais, au doute. Ouais. C'est tout, la suspicion.
Je pense qu'il est parti dans une fuite en avant. Macron est dans une fuite en avant.
Allez, un mot quand même sur cet incendie dramatique qu'il y a eu à Paris. Enfin, c'est plus qu'un mot qu'il faudrait dire. Le président de la République l'avait évoqué lui-même sur la psychiatrie en France. Il semble que ce soit une femme... qui est sorti d'hôpital psychiatrique le 23 janvier dernier. Les voisins avaient déjà alerté sur sa dangerosité. Et il y a un vrai, vrai problème avec la psychiatrie aujourd'hui où il y a un nombre de fous en liberté.
On veut laisser les gens le plus loin possible en liberté.
Mais il n'y a pas de place non plus. Il n'y a pas de place.
Les achats, c'est-à-dire les hospitalisations d'office, sont extrêmement difficiles à avoir. Ensuite, quand on en obtient une, parce qu'il y a un danger pour autrui ou pour la personne, il arrive dans l'hôpital psychiatrique, il reste 24 heures et il ressort.
Et aujourd'hui, ce qui se passe sur la psychiatrie en France, et c'est une politique qui est menée depuis 15 ans, c'est qu'on a favorisé ce qu'on appelle les hôpitaux de jour, en disant, on va donner des soins aux gens en journée, il faut absolument faire de l'inclusion et retour au domicile, et on a des gens qui se retrouvent dans des communes, dans des villages français, qui ne sont pas suffisamment soignés, qui, on le sait, et il y a de nombreux maires qui le disent, et les injonctions de soins sont possibles, mais elles sont très complexes
à mettre en œuvre, tout comme
les hospitalisations d'office, et on a un vrai problème sur la psychiatrie. Il faut savoir que le nombre de postes de psychiatrie en France est diminué de manière drastique chaque année. Et voilà, il faut malheureusement ce drame.
Avec l'intervention d'un magistrat,
pour pouvoir maintenir quelqu'un en hôpital psychiatrique, parce que c'est une liberté publique.
Et le nombre de places aussi. Qui est un problème aujourd'hui. Merci à tous les quatre, à suivre André Bercoff.
Merci à Valérie.
Merci.